Donc on est à Perek Vav, Mishnah Dalet, chapitre 6, Mishnah 4. Donc on a appris dans la Mishnah précédente, que la femme, pour réceptionner son guet, elle pouvait utiliser deux types de shliar. Deux types de shliar, c'est-à-dire deux types de coursier, deux types d'émissaire. Ou bien un shliar Kabbalah, ou bien un shliar Hava'a. La première catégorie de shliar que la femme peut faire pour réceptionner son guet, c'est un shliar Kabbalah. Ça veut dire qu'elle va envoyer, un shliar pour réceptionner le guet à sa place. Je crois que lundi on a appelé ça un shliar par procuration. Donc on va donner procuration à quelqu'un pour réceptionner le guet à sa place. Donc là, dans ce cas-là, le principe qu'on avait dit, c'est que dès que ce shliar-là reçoit le guet, même s'il ne l'a pas encore retransmis dans les mains de la femme, puisqu'il avait la procuration de la part de la femme pour réceptionner le guet, la femme est déjà divorcée, dès que le shliar a reçu le guet. Deuxième catégorie de shliar, c'est le shliar Hava'a. Shliar Hava'a, ça veut dire c'est un shliar que la femme ne va pas lui dire « va réceptionner mon guet », mais elle va lui dire « va m'amener mon guet ». Donc le shliar va aller chez le mari et il va amener le guet à la femme. Là, dans ce cas-là, tant que la femme n'a pas reçu le guet de la main du shliar, elle n'est pas divorcée. Donc notre Mishnah maintenant va nous expliquer que par rapport à ça, il y aura une différence par rapport à une femme qui était mariée avec un Kohen. Donc une femme Israël, une femme standard Israël, qui est mariée avec un Kohen. Donc tant qu'elle est mariée, elle a le droit de manger la terouma. Dès qu'elle n'est plus mariée, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Donc la même question se pose, à partir de quand elle n'a plus le droit de manger la terouma? Est-ce que c'est à partir du moment où le coursier a reçu le guet de la main du mari, ou c'est à partir du moment où le coursier a remis le guet à la femme?
Terouma, c'est la sacrifice?
Non, terouma, c'est les prélèvements qu'on donne au Kohen. Donc, nous dit la Mishnah. Haveligiti, si la femme a dit au shliach, elle lui a dit Haveligiti, ça veut dire amène-moi mon guet. Elle lui a pas dit reçois mon guet à ma place. Donc elle lui a pas donné une procuration. Elle a simplement envoyé en tant que coursier pour aller prendre quelque chose. Là dans ce cas-là.
Vous voyez une différence entre les deux?
Oui, bien sûr. Ouais. Vous allez voir, même en hébreu, il y a une différence. Il y a Have et il y a Itkabel. Haveligiti, ça veut dire amène-moi mon guet. D'accord, Itkabel, ça veut dire reçois mon guet. C'est pas la même chose. On dit donc Haveligiti, amène-moi mon guet. Qu'est-ce qu'on te dit? Ochelet bitruma tchagia getleyada. Elle a le droit de manger de la terouma jusqu'à ce que le guet arrive dans sa main. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas reçu le guet dans sa main, elle n'est pas divorcée. Puisqu'elle a demandé au shliach uniquement de lui amener le guet. D'accord? Mais elle lui a pas demandé de réceptionner le guet à sa place. Elle lui a pas donné de procuration.
Il n'est pas impliqué, parce que dans le premier cas, il est impliqué.
Alors que, non, ça c'est le premier, là c'est le premier. Le deuxième cas, Itkabel Ligiti. Le premier catégorie de shliach, j'ai compris. Itkabel Ligiti, si maintenant la femme a dit à ce shliach, Itkabel Ligiti, reçoit ce guet à ma place. Donc ça veut dire qu'elle a rendu un shliach les Kabbalah. Elle a rendu un émissaire pour réceptionner un miyad. Elle n'a pas le droit, donc dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de manger la terouma tout de suite. Ça veut dire que dès que le coursier est sorti de chez elle, tout de suite, elle pourra manger la terouma. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas à quel moment le coursier va recevoir le guet. Même si, normalement, ça prend 2 heures pour aller jusqu'au mari. Quand, par exemple, le mari, il est à Lyon et la femme est à Paris. Alors la femme, elle envoie un coursier pour aller à Lyon. Très bien. Dès que la femme a envoyé le coursier de Paris, tout de suite, elle a plus le droit de manger. Pourquoi elle a plus le droit de manger la terouma? D'accord? Ça c'est par rapport à la terouma. Maintenant. Itkabel digiti b'makom plouni. Si la femme, elle dit à un shliar, elle lui dit, Itkabel digiti b'makom plouni, ça veut dire, elle lui dit, va recevoir mon guet dans tel endroit. On avait eu un cas du même style, dans les semaines précédentes, mais c'est de l'autre côté. Avant, on avait parlé d'un mari qui envoie un shliar qui lui dit « Donne ce guet à ma femme dans tel endroit. » Là, c'est le contraire. Là, c'est la femme qui va envoyer quelqu'un et qui va lui dire « Va réceptionner mon guet à ma place. » Donc, elle lui donne procuration. « Mais dans tel endroit. Je veux que tu le reçoives dans tel endroit. »« Ochelet bitruma achiagia guet l'otomakom. » Donc là, elle a le droit de manger la terouma jusqu'à ce que le shliar arrive là-bas. Donc, on va estimer, par exemple, si la femme va dire au shliar, va réceptionner mon guet à Lyon, donc elle a dit l'endroit, donc nous on va évaluer combien de temps ça prend pour aller à Lyon. Si ça prend 2 heures, donc 2 heures plus tard, elle a plus le droit. Bien que c'est possible que le trajet a pris 5 heures.
Il peut même mourir en chemin.
Il peut mourir en chemin, etc.
Il n'est jamais arrivé.
Très bien. Là, de toute façon, on le saura. Mais nous, on estime combien de temps ça prend, le minimum, donc le temps standard pour arriver à Lyon. Et une fois que ce temps-là est passé, la femme n'a plus le droit de manger la terouma. parce que peut-être va savoir, peut-être qu'il attendait à la gare, ou va savoir, d'accord. Donc, dès que le temps est passé, c'est fini, on ne peut plus manger la terouma.
Et c'est si grave de manger la terouma en cas...
Très grave, quoi, bien sûr. Voilà.
Très grave, ouais.
C'est très grave.
Rabbi Eliezer Oser Miyad, d'accord. Rabbi Eliezer ne partage pas ce point de vue. Rabbi Eliezer, donc, il interdit tout de suite, d'accord. Il dit que même si la femme a demandé au shliar de le réceptionner son guet dans un autre endroit, et que l'endroit est à 2 heures d'ici, tout de suite c'est interdit de manger la terouma.
Qu'est-ce qu'on fait alors?
D'accord. Elle arrête de manger la terouma.
On ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer.
Alors, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. D'accord. La halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. C'est bon.
C'est, on parle là de cas où elle envoie dans un endroit assez loin.
Alors, on parle aussi d'une femme qui est mariée avec un Kohen.
Oui, et bien sûr déjà. Mais on parle d'un endroit où elle envoie assez loin, parce que c'est pour l'envoyer à 2 heures d'ici, oui. Elle va arrêter de manger la terouma tout de suite. Est-ce que bon, c'est difficile.
Elle a envie de se faire un dernier kiff avant de divorcer. Elle veut manger la terouma.
On parle de quelqu'un qui habite à... qui habite à Jérusalem et qui l'envoie dans le nord d'Israël.
Vous savez, très souvent dans la Mishnayot, on parle de...
À l'époque où il fallait y aller à pied. Elle dit, dans 4 jours, c'est arrivé. Voilà, je peux manger pendant... Parce que qu'est-ce que je vais faire pendant 4 jours, ouais. Bien que je mange.
Ok. Alors maintenant, dans la cinquième Mishnah, on va parler d'un cas intéressant. C'est une personne... Donc là, on va se remettre... On n'est plus du côté de la femme, on va se mettre du côté du mari. Un homme qui dit... Un mari, donc, qui dit à deux personnes, il leur dit... Quitte vous guette les ishti. Donc on verra dessus dans la Mishnah, je vous fais une petite introduction. Un mari qui dit à deux personnes, il leur dit, écrivez un guette à ma femme. D'accord ?
Et donnez-le à ma femme.
Écoutez bien. Un mari qui dit à deux personnes, il prend deux personnes, il leur dit, écrivez un guette pour ma femme. Est-ce que ces deux personnes-là ont le droit de donner le guette à sa femme ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Non, et pour l'instant, il...
Suivez ? Imaginez-vous que Monsieur Rouven veut divorcer sa femme. Il voit deux personnes, Shimon et Lévi, et il leur dit, écrivez un guet à ma femme. D'accord ? Qu'est-ce que, d'après vous, quand on dit écrivez un guet à ma femme, est-ce qu'il leur a demandé de le donner le guet ? Non. Bonne réponse. D'accord ? Tant que le mari n'a pas demandé explicitement de donner le guet, donc il les a pas rendus coursiers pour ça, ils peuvent pas donner le guet. Il leur a demandé d'écrire. Peut-être écrire, ça veut dire qu'il a voulu se dire...
Peut-être
c'est pas écrire, et il s'est dit, je vais avoir un guet prêt parce que ça va pas bien en ce moment. Comme ça, le jour où il faut divorcer, tout de suite divorce.
Ah.
En passant, vous savez que le Bedi...
Attention, tu continues, regarde, il est là.
Je sais pas comment ça aujourd'hui.
Il fait pas la maline, il est là.
Mais à l'époque, le Bedi avait une consigne de faire traîner le plus longtemps possible l'écriture du guet. Parce que peut-être, entre-temps, ils vont regretter. J'avais une consigne. Je sais pas si on fait comme ça aujourd'hui au Bedi, mais... Ils font exprès, c'est exprès.
D'avoir des rendez-vous avec le...
C'est exprès, c'est fait exprès.
Oui, je pense qu'ils font exprès, c'est ça aussi, ils doivent faire exprès.
Donc... Ah Omer, donc notre Mishnah va nous apprendre, d'accord, dans quel cas ces deux personnes-là, ce monsieur Shimon et ce monsieur Lévi, peuvent donner le guet à la femme. Donc, c'est-à-dire dans quelle formule le mari doit dire pour qu'on comprenne qu'il veut qu'on donne le guet à sa femme. Alors, nous dit la Mishnah, ah Omer, une personne qui dit, donc le mari qui dit à deux personnes, quitte vous guet ou nous les ch'tis. Écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Donc là, il a dit explicitement, donnez-le à ma femme. Bon. Ou bien, s'il a dit, garchoua. S'il a dit, divorcez-la. Ah, c'est clair, il n'avait pas cherché midi à 14h, il a dit, divorcez-la, ça veut dire, divorcez-la à ma place. Ou bien, s'il a dit, quitte-vous Igeret ou tenoula. S'il a dit, à deux personnes, écrivez une lettre et donnez-la. Ah, mais c'est mais il n'a pas employé le mot guette. Pourquoi le terme Igeret, ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez suivre un à deux avec monsieur. Pourquoi le terme Igeret ça marche? Parce que dans le get, d'accord, dans le get, faut savoir que quand on voit le langage du get, dans le get, il est appelé une Igeret Shevukin. Ça veut dire une lettre de séparation. D'accord? Une lettre qui va permettre au mari de laisser la femme. Donc puisque dans le get, on l'appelle ce document-là Igeret une lettre, donc quand le mari dit à deux personnes, écrivez une lettre et donnez-lui, bien qu'une lettre, ça peut dire un tas de choses. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Are elu irtevu veitnu. Dans ce cas-là...
C'est sur Igeret que la différence par rapport au premier. Parce qu'au
oui,
début, il y a quitte vous guette.
Et là, c'est Igeret. Igeret
ou nous là. C'est la même chose, sauf que c'est Igeret qui change par rapport à guette.
Exactement. Are elu irtevu veitnu. Dans ce cas-là, ils écriront le guette, veitnu, et ils vont lui donner. D'accord? Donc dans ces trois formules, c'est bon. Mais, si le mari a dit, pitroua, si le mari maintenant a dit... à deux personnes, il a dit pitroua, ça veut dire, je sais pas comment il traduit, libérez-la,
congédiez-la,
ouais, très bien, congédiez-la, ou bien, s'il leur dit, parnesoua, Par Nessoua, ça veut dire, s'il leur dit donc,
prenez soin d'elle.
Prenez soin d'elle, oui, parce que par Nessoua, ça vient du mot Parnassa. D'accord? Parnassa, ça vient du mot Parnasse. Vous savez, à l'époque, dans chaque communauté, on avait un Parnasse, c'était un responsable des besoins matériels de la communauté. Donc, un Parnasse, d'accord, ça veut dire s'occuper de ses biens matériels. Donc, en d'autres termes, ils leur ont dit Parnessoua. Donnez-lui la Parnassa. On ne sait pas ce qu'il veut dire, ce mari. Ou bien, s'il a dit le mari, Asula Kanimus. Ça veut dire, faites-lui ce que, comme la loi. Là, c'est vraiment ambigu, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Ou bien, s'il a dit Asula Karaoui. Si le mari dit à ces deux témoins-là, ces deux personnes, il leur dit Asula Karaoui, faites-la comme il se doit. C'est-à-dire que bon, c'est des termes qu'on peut comprendre, que ces deux personnes-là, ils peuvent dire oui, on a entendu, on a vu que ça allait pas du tout, le shalom bayit entre les deux, et certainement qu'on l'a vu, le mari, il arrive très énervé, il prend deux témoins et leur dit, ben, faites-la comme il se doit. Et normalement, ça veut dire qu'il veut la divorcer. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Lo amar klum. Lo amar klum, ça veut dire qu'il n'a rien dit.
Bah oui, c'est normal.
Il n'a rien dit. Même si dans le contexte, le chidouche de la Mishnah ici, c'est que même si dans le contexte, on comprend que le mari veut divorcer sa femme, c'est que bon, il a dit par exemple, congédié-la. Bah, c'est, on comprend qu'il parle du guet. D'accord? Même puisqu'il n'a pas dit explicitement, même si on voit dans le contexte qu'il a envie de la divorcer, le Amar Kloum s'est considéré comme si qu'il n'a rien dit. C'est pour ça que Maïmonide, il va même plus loin. Il dit que s'ils ont écrit le guet et ils l'ont donné, c'est un guet qui vaut rien du tout. C'est comme si qu'ils n'ont rien donné. Barishona a eu Omri. Au début, les Chachamim disaient, Ayotse Bakola, si une personne, il sort Bakola, ça veut dire qu'il est enchaîné. Alors, pourquoi il est enchaîné? Parce que, par exemple, il a fait une faute grave, et que le royaume a décidé de le mettre à mort. Ou il a fait une faute grave, ou bien on a décidé de le mettre à mort. Donc, il est enchaîné. Et donc, a priori, il va bientôt mourir. Je préserve. Ve'amar, et une personne qui dit, il dit à deux personnes, qui de vous guette les ishti? Il dit, écrivez un guette à ma femme. Vous voyez, on se remet dans le contexte, regardez bien le contexte. On a ici quelqu'un qui va bientôt mourir, et sa femme n'est pas là. D'accord, sa femme n'est pas ici. Et il n'a pas envie, par exemple, il n'a pas envie que sa femme devienne veuve. Il préfère qu'elle soit divorcée. Pour plusieurs raisons. Peu importe la raison pourquoi il veut le faire, mais il veut pas mourir et que sa femme soit veuve. Ou bien c'est possible, par exemple, qu'il sait que pour le mettre à mort, on va l'amener très loin et qu'on n'aura jamais de preuve qu'il a été mis à mort et que sa femme restera à Gouna. On a des tas de cas de figure. Il veut que sa femme soit divorcée tout de suite. Donc à l'époque, les Rachamim disaient que si cette personne-là, qui est enchaînée, va rencontre deux personnes et qu'il leur dit « écrivez un guet à ma femme ». Mais il leur a pas dit « donner ». Il a dit « écrivez un guet à ma femme ». Arelou, irtevou, veitnou. Dans ce cas-là, les Rachamim disaient à l'époque que dans ce cas-là, ces deux personnes-là devront écrire le guet et devront lui donner. Même si le mari n'a pas dit explicitement donner le guet à ma femme, mais on pense que certainement, comme il était pressé, il était bon, imagine, il était déprimé, il était pas bien. Donc, certainement qu'il n'a pas eu le temps de bien finir sa phrase. Mais en vérité, ce qu'il voulait dire quand il leur a dit écrivez le guet, ça veut dire écrivez le guet pour le donner. Ça, c'est ce que les Rachamim ont dit au début. Chazrou. Ensuite, les Rachamim ont regretté. Lomar, pour dire, ah, ça me farèche, même une personne, mais farèche, ça veut dire qu'il fait un long voyage à la mer. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'apprête à faire un long voyage en mer. Et à l'époque, vous savez, on revenait pas toujours de la mer. Vayotse bichara. Ou bien une personne qui prend la route, d'accord, dans une chara, ça veut dire avec une caravane. Donc, à l'époque, on voyageait pas seul, on voyageait avec une caravane et on prenait des routes qui étaient des fois dangereuses. Et malheureusement, il y avait souvent on revenait pas. On se faisait attaquer par des brigands. Et donc, dans ces deux cas-là, donc c'est deux cas dans lesquels la personne il sait qu'il y a une sakana, ça veut dire qu'il risque de partir. Même s'il a dit, d'accord, donc s'il a dit donc écrivez un guet à ma femme, d'accord, on écrira un guet à sa femme et on lui donnera. Ça veut dire comme ça. Au début, les Chachamim avaient dit que uniquement dans un cas où il y a vraiment un danger très très grave, comme par exemple le cas où il va être mis à mort, là dans ce cas-là, quand il dit écrivez un guet à ma femme, on lui donnera aussi, même s'il n'a pas dit explicitement donné lui. Ensuite, les Chachamim ont regretté sur ça. Ils ont dit, non, on va rajouter encore d'autres cas. Même un autre cas, même si c'est un cas dans lequel le mari, il va faire un long chemin, ça va passer par la mer, ou il va passer par des chemins dangereux, et qu'il n'est pas tranquille, et sa femme n'est pas à côté, il dit, bon, écrivez un guet à ma femme, parce que je suis pas sûr de revenir. D'accord? Les Chachamim ont dit que même s'il a seulement dit, écrivez un guet à ma femme, il n'a pas dit explicitement, donnez-lui le guet, on considère que c'est comme si qu'il a dit, donnez-lui le guet.
Et s'il revient?
Ben, c'est son mari. Bah, c'est lui qui a dit écrivez un guet à ma femme.
Mais il n'a pas dit donner le...
Ouais. Parce que les Khamim ont rajouté. Parce que malheureusement, il y avait beaucoup de monde qui ne revenait pas.
Oui, il y a un problème dans le problème.
C'est au bout d'un certain temps qu'il lui donne.
Tout de suite.
Tout de suite.
Quoi, dès qu'il prend le bateau.
Non, il a, c'est son problème. Il a dit, écrivez un guet à ma femme.
Mais encore une fois, il n'a pas dit donner lui.
D'accord. Ah oui, il a dit écrivez avec un thème à femme.
On n'a pas le temps de demander la confirmation. Ok, écrivez, mais est-ce que tu veux lui donner? Parce qu'on pourrait, on pourrait lui poser
les deux personnes sont deux personnes qui sont simples. Ils n'ont pas, ils sont pas mis à l'embêter. Ils sont venus pour lui dire au revoir.
Mais...
Après, ils arrivent au Beit Din. Le Beit Din dit ah oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit bah, il nous a dit écrivez un guet à ma femme. Ah, il aurait dû vous dire et donner lui. Ah, allez, allez le rattraper maintenant. Il est en pleine mer.
Il voyage, ça.
Il est déjà parti. Rabbi Shimon chez Zori Omer. Rabbi Shimon chez Zori rajoute encore un cas.
Ouais, c'est pas sur Rabbi.
Non, il n'est pas connu. Il dit, Afame Soukan, même une personne qui est en danger, d'accord, de vie ou de mort. Donc là, on ne parle ni d'une personne qui est enchaînée, enfin, qui va bien, ni d'une personne qui va être mise à mort, ni d'une personne qui va prendre une route dangereuse. On parle d'une personne qui est à l'hôpital, qui est par exemple qui est à l'hôpital ou qui est chez lui, mais c'est une maladie dangereuse, qui risque de perdre sa vie, Dieu préserve. S'il a dit à deux personnes, écrivez un guet à ma femme, on écrit et on donne le guet. Alors, il y a maintenant entre les commentaires, d'accord, il y a plusieurs explications pour essayer de déterminer qu'est-ce que ça veut dire un malade dangereux. C'est-à-dire quoi, toutes les maladies sont dangereuses. Alors on a une première approche, c'est l'approche du Meiri, qui nous dit que toute personne qui tombe malade est considérée Becheskat Sakana, ça veut dire qu'il est dans un état de danger. Toute personne qui tombe malade, dès qu'on tombe, même une grippe, d'accord? Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'avait pas les médicaments comme aujourd'hui, donc de toutes les maladies, on pouvait partir.
On pouvait partir. Ouais.
Je préserve. Donc le Meiri nous dit que quand on dit ici affamé soukan, ben en vérité, on parle de toutes les maladies. Quand une personne qui tombe malade, une maladie de laquelle on peut partir, et malheureusement, c'est pratiquement toutes les maladies, hein, quand on soigne pas pratiquement toutes les maladies. À l'époque, il y avait des gens qui mouraient de grippe et des choses comme ça. C'est
aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui aussi. Donc... Ça, c'est le Meiri. Le Rambam Maïmonide, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est quoi Mesoukan? Qu'est-ce qu'on considère un malade, donc un malade qui est en danger? On considère un malade qui est tombé malade subitement. Qui est tombé malade subitement, et que tout d'un coup, il est devenu très malade. Vraiment, ça s'aggrave très très rapidement. Même si maintenant, il n'est pas encore en danger de mort, mais puisque ça s'est aggravé très rapidement, on considère que c'est très possible que ça va mal se finir. Donc il peut, à ce moment-là, s'il dit, comme il est stressé, d'accord, il a peur, s'il dit écrivez un guet à ma femme, on considère qu'en vérité, il voulait dire écrivez un guet à ma femme et donnez-le. Ensuite.
Et on considère qu'on n'a pas le temps de vérifier. En
fait. Ouais. On considère que bon, certainement, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. Bon, dans ce cas-là, certainement qu'il est mort entre temps. Hein? Et on veut savoir.
Il est peut-être vivant, mais malade, peut-être qu'il est inconscient.
Peut-être qu'il est dans le coma, va savoir.
Il pouvait pas être dans le coma avant. Avant, il était dans le coma, il partait.
Non, pas forcément. Ah non, parce que non, quand on dit écrire un guet, comme on a dit, ça peut vouloir dire qu'il va avoir un guet en rab. Il va avoir un guet pourré. D'accord, au cas où. Sous la main. Non, c'est... Alors, le Mishnah Vav, le Mishnah 6 continue comme ça. Il dit, Mishaya Mushlach Labor. Une personne qui était jetée dans un puits. D'accord? Jetée dans un puits, tout au fond d'un puits, impossible de le prendre, n'arrive pas à le prendre. Et donc il est au fond du puits, et il crie très fort, il dit, Ve'amar, et il a crié, Kol HaShomeet Kolo Irtov Get Leishto. D'accord? Donc il dit, que celui qui entend sa voix, écrive un guet à sa femme. Il parle de lui. Il dit que celui qui il parle à la troisième personne, que celui qui entend ma voix, écrive un guet à ma femme. Maintenant, il sait pas si on l'entend ou pas. Avant de partir, il crie comme un malade, il dit que celui qui m'entend, écrive un guet à ma femme. Tout celui qui m'entend, écrive un guet à ma femme. Il n'a pas dit de donner. Mais il a pas dit de donner, il a dit écrivez un guet à ma femme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Arrêt et loup, irtez-vous, veitnou. Ceux qui entendent, ils font un minimum de deux, comme d'habitude. Irtez-vous, veitnou, ils écriront le guet et ils donneront. D'accord? Alors. La Gemara explique qu'on parle ici d'un cas où ceux qui l'ont entendu ne le connaissent pas. Ne connaissent pas celui qui est au fond du puits, on le voit même pas. Mais ils ont entendu. Mais, la Gemara ajoute un détail important, c'est que puisqu'ils ne le connaissent pas, il faut que celui qui est au fond du puits, il faut qu'il leur dise son nom et le nom de sa femme. Et le nom de sa ville et le nom de la ville de sa femme, s'ils ne sont pas de la même ville. D'accord ? Parce que dans ce cas-là... En fait, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi et ils le voient même pas. Hein. Et lui, il dit, ah, si vous m'entendez, écrivez un guet, je m'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça, telle ville, telle ville. et Pâques.
Si vous faites envoyer une corde.
D'accord.
Non, mais... ils étaient tellement soucieux de donner le guest avant. De nos jours, je vois pas quelqu'un qui va voyager ou prendre un avion.
Aujourd'hui, Baruch HaShem, on n'a plus les dangers comme ça.
Non, il y a, à chaque fois que tu prends un avion, tu as un danger.
C'est pas un danger. Aujourd'hui, c'est plus dangereux de prendre la voiture que l'avion.
Oui, la voiture, alors. Mais on pense
pas. Je me rappelle, comme j'avais un copain une fois, quand on était en Amérique, il est parti faire une fois le saut à l'élastique.
Ouais.
Mais pas les sauts à l'élastique comme ici. Un saut à l'élastique, je crois qu'il faisait 200 mètres, un truc comme ça, ouais, vraiment.
Ça fait pas ici, les Français aussi là-dessus.
Les enfants là
ils sont un peu. Les Français au niveau.
Bon, il est parti. Il est parti un truc comme ça. Et juste avant d'eux. Alors, eux, ils disent qu'il y a 5% il y a 5% qui meurent.
Quoi ?
Ouais. Alors là-bas, dans ce truc-là, il y a 5% qui meurent.
C'est une personne sur 20.
Il faut signer une décharge avant de sauter.
Non, du cri cardiaque, c'est moins con.
Je sais pas, il y a 5%, peut-être à partir d'un certain âge, un truc comme ça, en tout cas, avant de sauter, il faut signer une décharge. Il faut signer une décharge.
Normal.
Et lui, ce Romar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé sa mère juste avant de sauter, il a fait « Maman, saute à l'élastique !» Il a raccroché, il a sauté. Sa mère, elle était comme une folle. Alors, j'imagine la même situation, avant de sauter... Il appelle deux personnes, le téléphone c'est un problème, mais bon, il dit à deux personnes en bas, bon, écrivez un guet à ma femme, hein, et il saute.
On a le temps de vérifier là par contre.
Alors, Avari Shahamar. Alors, donc on a dit que même s'il n'a pas dit explicitement donner un guet à ma femme, ils écriront le guet et ils lui donneront. Avari Shahamar, maintenant si c'est une personne qui est en bonne santé, d'accord, il n'y a pas de problème, il ne va pas sauter à l'élastique, il n'est pas dans le puits, bah au Hachem, hein. Non. Personne en bonne santé, ni il prend la route, rien du tout, il est chez lui à la maison. Shahamar qui a dit, quitte-vous guette les ishti. Il y a des invités à la maison, il y a sa femme et tout, deux invités, il dit aux invités, il s'énerve, il dit aux deux invités, écrivez un guette à ma femme. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit, ratzal et sachekba. Certainement, qu'il voulait s'amuser avec sa femme, il voulait la taquiner. C'est une plaisanterie. Une mauvaise plaisanterie peut-être, mais, quand de mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Parce qu'il n'a pas dit de donner. Et la Gemara raconte, elle dit, ma se bevari echad. Il y a une histoire qui s'est passée avec donc Bari Echad, donc avec une personne qui était en bonne santé, Shahamar qui a dit qu'il vous guette les ishti. Quelqu'un qui était en bonne santé, d'accord, qui a dit écrivez un guette à ma femme. Ve'ala le Rosh Hagag. Une fois qu'il a dit ça, écrivez un guette à ma femme, il est monté en haut du toit. Donc après qu'on a écrit le guette, elle donnait à sa femme. Ve'nafal va mettre. Il est tombé et il est mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel l'a dit. Amru Khamim le Khamim ont dit Im me atmo nafal arezeget. S'il est tombé de soi-même, du toit, dans ce cas-là, c'est un guet, c'est sûr. Parce que là, pourquoi? Parce que là, ça montre que quand en vérité, quelques minutes avant, il a dit écrivez un guet à ma femme, comme la Gemara explique, quand c'est un cas que Ochiar Sofo al Trilato, ça veut dire que la fin des événements va nous prouver qu'en vérité le mari était très sérieux dans ce qu'il disait, ben dans ce cas-là, on va considérer que c'était du sérieux. Donc là, dans ce cas-là, si on voit apparemment que le mari est tombé de soi-même, malheureusement, ça veut dire qu'il a montré que quand il a dit écrivez un guet à ma femme, il était sérieux. Juste après, il est tombé du toit, d'accord? Il est tombé de soi-même.
Tombé de soi-même, ça veut dire qu'il s'est suicidé.
Oui, bon, voilà.
Non, mais c'est...
Je voulais pas dire ça, mais bon, il est tombé de soi-même. D'accord?
Non, tu peux tomber sans cause extérieure, parce qu'après, il parle du vent.
Oui, oui.
Tu peux rater un barreau de l'échelle et tomber.
Oui, c'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire que quand il était chez lui à la maison, avant de monter au toit, il savait qu'il allait tomber du toit. C'est pour ça.
Bon, c'est mal.
Mais, donc c'est pour ça que le guet est un bon guet. C'est un bon guet, c'est un guet cacher. Même s'il n'a pas dit explicitement « donnez-lui », mais...
Bon. Monsieur le Radman, excusez-moi, quelle est la différence entre quelqu'un qui est au fond du puits qui dit « donnez le guet » alors qu'il sait qu'il va mourir et la femme qu'elle soit veuve ou qu'elle reçoive son guet?
Et la femme, je n'ai pas compris.
C'est pour la femme la différence.
La femme, quelle est la différence qu'elle ait un guet? Qu'elle n'ait pas de guette, alors
on peut avoir beaucoup de différences. On peut avoir plusieurs différences. D'abord, on peut avoir une différence dans un cas où, par exemple, le mari n'a pas laissé d'enfant. Ouais. Et que, normalement, la femme doit se marier avec son frère.
D'accord.
C'est obligé.
Là, c'est dans le cas où il n'y a pas de guette.
Ah oui. Dans le cas où il n'y a pas de guette. Là, le mari va éviter ça. Il y a beaucoup de cas de figure. Ou bien, c'est possible que le mari veut que sa femme hérite la ketouba. Allez savoir, il y a plein de cas. Pourquoi le mari veut divorcer? Je conclue. Donc, imaruar dechatu enoget. Mais si, par contre, il est monté au toit, et c'est le vent qui l'a poussé, et là, dans ce cas-là, c'est pas un guet. Pourquoi? Parce que, malheureusement, il a pas eu de chance, mais quand il était en bas chez lui à la maison, et qu'il a dit, écrivez un guet à ma femme, on considère qu'il rigolait. C'est une plaisanterie. Ah, mais après il est tombé. Oui, mais il est tombé de soi-même. Pardon, il est tombé, le vent l'a poussé. Si on voit qu'il y a un grand vent tout d'un coup, un ouragan, il est tombé. Bah, le guet n'est pas cachère. Pourquoi le guet n'est pas cachère? Parce que certainement qu'il plaisantait. Parce que là on n'a rien qui nous montre qu'il était sérieux. À ne pas confondre avec le premier cas. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ouais, un ouragan qui vient tout d'un coup. Qui
alors, donc, il a fait un guet sachant qu'il est monté sur le toit pendant une tempête.
Comme s'il allait faire un
non, ouais, tout d'un coup, il y a un vent qui vient.
Tout d'un coup, il y a une tempête qui se lève.
Tout d'un coup, il y a un ouragan.
Il y a des cas, c'est à zéro.
Ah, mais je comprends pas pourquoi là, c'est pas valable. Et avant de voyager en bateau et tout ça, c'est valable.
Parce que
quand tu montes sur un toit, il y a des risques.
Parce qu'avant de voyager, d'accord, ouais. Avant de voyager, on sait qu'on risque de ne pas revenir.
Là aussi, quand tu montes sur un toit, il y a des tuiles.
Pas du tout, quand on monte sur un toit, pour nous, c'est, tout ira bien.
C'est pas une terrasse, c'est un toit.
Quand on monte sur un toit...
Un étage ou pas d'étage, un rez-de-chaussée avec un toit. Elle risque de se casser les jambes, mais pas de mourir.
Oh, on compte pas. Quand une personne monte sur un toit, il dit pas à sa femme, écoute, chérie, je vais monter au toit, je sais pas si je vais revenir.
C'est un métier à risque.
Non, mais là, dans le cas du suicide, la fin de la fin de l'histoire nous a montré qu'en vérité, il était sérieux quand il a dit ça.
Parce qu'il voulait se jeter.
Le gars, il veut réparer son toit et c'est un jour de tempête.
Non, parce que malheureusement,
il écrit un guet avant de monter et il monte. Et c'est bien le vent qui le pousse. Mais il savait qu'il y avait un risque puisqu'il y avait une tempête.
Bon, mais il comptait pas mourir. C'est pas la même chose, il a pas sauté. Il s'est pas suicidé. Il est parti pour chercher quelque chose, on va savoir.
Alors dans ce cas-là, il doit s'abstenir.
Il n'est pas valable.
Dans ce cas-là, le guet n'est pas valable.
Donc il doit s'abstenir. On doit s'abstenir.
En passant, je crois qu'aujourd'hui, les psychologues, ils disent que quelqu'un qui se suicide, avant de se suicider normalement, la majorité, dans la majorité des cas en tout cas, ceux qui vont se suicider, ils arrangent tous leurs affaires. Ça veut dire qu'ils veulent pas avoir de problème avec qui que ce soit, ils arrangent tout, comme celui-là, c'est pour ça. Avant de se suicider, il a dit écrivez un guet à ma femme, c'est-à-dire il veut être clean, il veut partir tranquille. Bon, enfin, ouais. Je sais pas s'il y a un rapport, mais...